Bonjour à tous. Ce matin, les CRS ont détruit une grande partie de la jungle de Calais, où se terrent les migrants, ces exilés sans refuge, dans l'espoir d'atteindre l'Angleterre. Malgré les beaux discours de M. Besson, cette destruction renforce le pouvoir des passeurs et terrorise un peu plus ces gamins qui ont fui l'Afghanistan. Cette réponse de notre pays est indigne des droits de l'homme que nous défendons tant. Nous vous appelons à nous rejoindre à Calais, au centre commercial Les 4B, pour protester contre la façon dont la France traite les migrants.
Salut Daniel, c'est Stéphane d'Aix-les-Bains. En fait, j'écoutais ton émission sur les lettres des résistantes, et j'ai eu moi-même mon grand-père qui a été jeunesse communiste, résistant. Et je lui ai fait écouter ton émission, parce que le vieux, tu sais, il est... Il rejette tous les médias, il en a marre, tu vois, il a 85 ans, il me dit c'est tous de connivence, il n'y a personne pour résister vraiment. Alors je vais quand même parler de toi, Daniel. Et puis on a écouté l'émission tous les deux, et puis il a eu un grand silence vers la fin, il n'a pas dit un mot de toute l'émission, tu vois, il a écouté, je l'observais, je regardais ses mains trembler, ses mains se crisper sur la table. Et puis on discute, et là il me fait voir une photo d'une équipe de basket, il jouait au basket dans les années 37. Et il me dit, bah tu vois, en 45, donc sur, je sais pas, ils étaient une dizaine sur la photo, il en manquait 8, quoi. Tous dénoncés, bien sûr. Et puis justement, on parle de ça, des dénonciations. Et puis en discutant, il me raconte une anecdote. Dans les années, je sais plus exactement la date, il m'a dit dans les années 60, après, ils ont fait un petit banquet à Chambéry, là-bas, pour commémorer un peu tout ça. Et en fait, ils avaient eu des complices en fait dans la commandanture allemande, un officier allemand qui devait rejeter le régime nazi et qui leur a donné un coup de main. Et en fait, bon, ils ont su ça bien sûr longtemps après, quand tous les dossiers sont été ouverts. Et donc, ils ont invité cet officier allemand dans les années 60-65 pour qu'il vienne manger avec eux. Bon, il avait résisté lui aussi. Hein. Et donc, l'officier allemand leur a dit « Eh ben, messieurs, j'avais honte pour le peuple français ». Parce qu'on nous recevions plus de 700 lettres de dénonciation par jour, du tout et du n'importe quoi. Mon voisin est communiste, mon voisin est... Et enfin bref, que des conneries quoi, que des conneries. Et voilà la France de 44. Et ensuite mon grand-père me parlait des commémorations aussi. Il me disait qu'aux commémorations, tu retrouveras toujours ceux qui n'ont rien branlé. Parce que ceux qui ont fait, ils sont soit au cimetière, ou alors ils restent chez eux. Parce que d'aller soulever... les drapeaux et d'entendre tout ça, ça leur rappelle de sacrés souvenirs. Tu vois, ils essayent de les refouler parce que ils ont eu leur but, ils ont gagné, ça s'est arrêté là, terminé. Il n'y a pas de gloire à en tirer, il n'y a pas de... ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est les mots de mon grand-père, quoi. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, et ce qu'on devrait tous faire, résister.
Bonjour, je voudrais dire à un syndicat, nous ne sommes pas des moutons. Au sujet, quand on fait grève, on a le droit de prendre la décision nous-mêmes. Je leur dis encore, nous ne sommes pas des moutons. Point final.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, dans le dernier numéro de Fakir, on a relevé que Bernard Thibault s'était rendu 0 fois chez Goodyear, 0 fois chez Continental, 0 fois chez Caterpillar, des usines où sont allés à la fois Fakir et Là-bas si j'y suis. En revanche, Bernard Thibault s'est rendu 8 fois à l'Elysée depuis le début de l'année. On peut lire ça sur le site de l'Elysée, elysée.fr tout simplement. Un palais où ni Fakir ni Là-bas si j'y suis ne sont allés. Donc, on va aller appeler la CGT pour causer un peu de tout ça.
CGT, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'habite Amiens et je fais un journal qui s'appelle Fakir. J'avais entendu début juillet que les Goodyear avaient adressé une lettre ouverte à Bernard Thibault.
Oui.
Ils avaient pas reçu de réponse.
Oui.
Donc j'étais venu chez vous à Montreuil pour apporter une carte postale.
Oui.
De ma ville pour dire à Bernard Thibault, bah, si vous voulez, qu'il y avait autre chose que des usines qui ferment.
Oui.
À visiter chez nous, il y avait la cathédrale, il y avait les ortillonnages, il y avait des choses comme ça. Et en fait, j'ai pas reçu de réponse. Alors, c'est pas très poli. Enfin, ma mère, elle dit pareil, elle dit que c'est pas très poli, quoi.
Ben, je vais vous passer son secrétariat. Ne quittez pas, monsieur.
Donc voilà, Daniel, si tu veux lire la carte postale, ainsi que notre dossier consacré à « Mais que font les syndicats ?», eh ben, il faut courir, acheter Fakir chez ton marchand de journaux. Enfin, à vrai dire, toi, tu le reçois gratuitement par la poste, mais c'est pas le cas de tous tes auditeurs. T'es vraiment un privilégié. Salut, Daniel.
Oh. Voilà un cas, voilà un véritable cas de publicité clandestine pour l'excellent journal de François Ruffin qui s'intitule Fakir. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, sauf que on peut pas le recevoir par la poste aujourd'hui, étant donné que c'est la grève de nos amis postiers, ce qui est un très sale temps pour les corbeaux. Ah oui, les corbeaux qui envoient des lettres, parce qu'il y a ceux aussi qui utilisent le téléphone, mais ceux qui utilisent les lettres, voilà, aujourd'hui c'est une très mauvaise journée. Mais maintenant, tout ça, chez nos amis de Saint-Pons-des-Sommières, on s'en moque complètement. Vous savez qu'on a retrouvé le corbeau, vous êtes au courant. Ouais, ça y est, hop, c'est une affaire qui est réglée. Si bien que cette charmante cité peut retrouver sa vie normale. La vie normale, qu'est-ce que c'est que la vie normale? Le susdit François Ruffin s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que la vie normale? Et ce qui nous a plu évidemment dans ce village, c'est tout ce qu'il y avait autour de l'affaire du corbeau et de ses perquisitions et de ses brutales gardes à vue. C'est le village, c'est la vie des gens. Et c'est la vie d'un homme aujourd'hui. La vie d'un homme, ni extraordinaire, ni ordinaire, ni héros, ni salaud, mais un petit peu les deux quand même. Une vie dans l'époque, dans le siècle, une vie de plus de 60 ans. Et vous allez voir que dans ce récit de vie, il y a l'histoire aussi qui passe, il y a l'histoire de cette vie, et puis l'histoire tout court. En écho qui se mêle, qui fabrique cette vie. Parfois, peut-être que cette vie, comme n'importe laquelle, contribue, tant soit peu, à faire l'histoire. Autre chose, concernant les témoignages de nos amis de France Télécom, j'ai fait un appel hier en disant qu'on prépare un sujet sur France Télécom et en suscitant vos témoignages, vous pouvez continuer. Ça nous intéresse beaucoup. On en a reçu déjà pas mal, mais ça nous intéresse surtout évidemment du côté managérial. Ça nous intéresse d'avoir des managers, des gens qui collaborent à ce mode assez étonnant quand même de management, qui le défendent ou qui s'en expliquent, qui ont envie de témoigner à ce sujet. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. Alors, la vie de Bernard, mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis.
J'ai entendu ce matin au journal de France Inter une intervention de Dominique Payet, le porte-parole de l'UMP, qui annonçait la main sur le cœur que jamais la Poste ne serait privatisée. Et que ceux qui colportaient ces rumeurs étaient des menteurs ou les vilains. Puis j'ai entendu aussi Christine Lagarde qui nous a répété pendant une demi-heure, pareil, elle était l'invitée du journal ce matin, que jamais la Poste ne serait privatisée. Daniel, est-ce que tu peux nous rendre un petit service, nous rafraîchir la mémoire en nous repassant ce que nous avait dit Sarkozy concernant GDF? Et je pense que ça remontera le moral des postiers. Voilà, ciao.
On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net.
Dit Daniel, pour le procès Clearstream, j'ai trouvé une solution élégante qui a le mérite de disculper et Villepin et Sarkozy. Alors je résume. En 2004, les banquiers français ne se consolaient pas de voir la France traîner les pieds sur le chemin du néolibéralisme. Après l'échec de Balladur en 1995, ils trépignaient de devoir supporter un Chirac trop mou à leur goût. Pour 2007, leur candidat serait le petit Nicolas. Et cette fois, pas question de se faire voler la victoire par ce grand fou de Villepin. Ayant leurs aises dans la banque des banques Clearstream, ils n'ont aucun mal à faire fuiter un listing de comptes bancaires suspects. Sur ce listing figurent des dirigeants du groupe français d'armement EADS. Un des directeurs du groupe en reçoit un exemplaire qu'il fait passer à Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, en attirant son attention sur le caractère stratégique de ce document. Villepin est appâté, il ne reste plus qu'à le ferrer. Entre en scène un informaticien génial, légèrement mytho, qui depuis sa sortie de prison en 2002 collabore avec certains services policiers. L'informaticien, qui connaît lui aussi le listing original, s'emploie alors à le falsifier. en y ajoutant des noms de personnalités françaises, dont celui de Nicolas. Chirac et Villepin mordent à l'hameçon et demandent au général Rambaud d'enquêter discrètement. Le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à prévenir le petit Nicolas que Villepin, qui vient d'être nommé au ministère de l'Intérieur, veut sa peau. Connaissant la psychologie du petit, la suite ira de soi. Piqué au vif, il prépare sa contre-attaque et début 2006, un an avant les élections, porte plainte en justice. Villepin, déstabilisé, abandonne la course à la présidentielle et en 2007, les banquiers vont enfin se réjouir d'avoir fait élire leur candidat les doigts dans le nez. D'autant qu'ils avaient également dégagé le terrain à gauche en faisant écarter par l'opinion publique naïve les candidats les plus dangereux.
Ici le repère de Marseille. Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. La rentrée du repère de Marseille se fera le mercredi 23 septembre à l'Équitable Café qui se situe au 54 cours Julien dans le 6e arrondissement. Tout au long de ce repère, de 18h30 jusqu'à tard dans la nuit, nous fêterons les 20 ans de là-bas si j'y suis. Tous les AMG sont invités à apporter leur talent et leur bonne humeur pour fêter joyeusement cet anniversaire. Libre à chacun de venir y mettre son grain de créativité. Soyons nombreux ce mercredi 23 septembre à partir de 18h30 à l'Équitable Café sur le cours Julien à Marseille.
Le prochain café repère de Savigny-sur-Orge aura lieu le mercredi 23 septembre à 20h30 sur le thème l'écologie au quotidien. AMAP et compagnie et présence d'intervenants concernés. Attention, pour des raisons de divergence de vue avec le patron du bistrot, nous avons changé de lieu. Nous nous retrouvons maintenant au restaurant Le Jasmin, passage Séverine, près de la gare. Merci, à bientôt.
Ouais, c'est ouvert, j'arrive. Hein.
Attention. Tu sais, des fois l'après-midi, j'écoute la radio, ma chérie. J'écoute la radio l'après-midi, des fois. Eh ben, c'est le monsieur qui passe à la radio l'après-midi, là, qui fait l'émission dans la radio.
Ah ouais.
Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin. La vie de Bernard en 44 minutes.
Flight number 2, arriving from New York.
Vous êtes un peu le Taras Bulba, crâne rasé, avec des belles bacchantes, des belles moustaches en bacchantes. Ouais. Vous faites aussi penser à un François Cavana chauve, quoi.
Ah ben, vous... un peu, ouais, un peu Cavana, ouais. Plus Choron avec des moustaches.
Ou Choron avec des moustaches.
C'est un peu genre.
Et il y a un autre détail. Là, vous roulez votre cigarette, l'une de vos phalanges de votre index est coupée.
Ouais.
Et c'est le cas aussi de François Cavana,
ah ouais,
qui, pendant le service de travail obligatoire, a perdu des phalanges en Allemagne. Ah, vous avez perdu comment, vos phalanges?
Je l'ai perdu, j'avais 14 ans et 10 jours, je m'en souviens, 11 jours. Je me suis fait embaucher dans une menuiserie.
C'est-à-dire juste à la sortie de l'école, bing. Voilà.
On a passé le certif en juin, j'ai eu mes 14 ans le 30 août et le 11 septembre, j'étais embauché dans cette menuiserie. C'était dans la région lyonnaise. Le premier jour, je me suis fait couper un doigt. En ce temps-là, on ne parlait pas d'hygiène, de sécurité.
Le premier jour de boulot.
Le premier jour, c'est pour ça que je m'en souviens bien. Hein. C'est le jour de ma première immatriculation à la sécurité sociale. Et l'après-midi, j'ai un doigt coupé. On m'a chargé dans une bagnole avec une serviette autour du bras. Et puis, alors là-bas, c'était à Lyon, c'était l'hôpital Saint-Luc. C'était l'hôpital spécialisé en accident du travail. Et à cette époque, ça marchait, l'accident du travail. Hein. Je me disais, il y en avait. Rapidos, on m'a recousu. Et puis voilà, on m'a jeune homme. Hein. Donc, c'était aussi le premier jour où, quand je suis rentré à la maison, ma maman m'a dit, oh, mon pauvre chéri, parce que pour elle, j'étais un bébé. Qu'est-ce que tu voudrais à me chercher des cigarettes? Et depuis ce jour-là, j'ai continué à fumer toujours.
Oui. Oui.
Bon, non. Non, c'est pas une vie exemplaire, une vie édifiante, mais c'est pas une vie de chien non plus. C'est pas une vie héroïque, mais c'est pas une vie de mouton non plus. C'est pas une vie de héros, ni une vie de salaud, mais un peu les deux quand même. C'est pas une carrière, c'est pas une œuvre, mais c'est pas rien. C'est pas une réussite, mais c'est pas un échec. Un peu vantard, un peu bâtard aussi. Est-ce que ce gars-là se déboutonne ? Non, juste un peu. Est-ce qu'il déballe ? Non, juste un peu. Et là, il aurait fallu des bruits. Vous savez, comme dans La Basse, j'y suis, l'émission qui passe à partir de 15h sur Inter. Il y a beaucoup de bruit dans cette émission. Alors, il aurait fallu peut-être le bruit d'un train. Voilà, pour dire le train de vie. C'est amusant, le train de vie, sauf que il n'a pas un train de vie très élevé, le Bernard. Tu vois, t'es joli, c'est une mobilette qui passe. Une mobilette bleue, comme il y en avait autrefois dans sa jeunesse. Mais alors, des bruits de mobilette bleue qui passent sur une petite route de l'Hérault, c'était pas facile à trouver dans notre réserve de bruit, dans notre armoire à bruit. Alors on a pensé la radio. C'est sympa la radio, c'est une génération qui a beaucoup écouté la radio. Mais comme on est déjà à la radio, écouter la radio, alors on a mis ça de côté. Finalement, le bruit que vous allez entendre, c'est le bruit d'un couteau qui coupe des tranches de vie. Voilà. Non ? C'est bien ? Vous allez entendre des tranches de vie dans la vie de Bernard en 44 minutes. Sauf que là, c'est quand même un couteau sans manche et dépourvu de lame. Voilà, comme le sens de la vie. C'est pas une vie extraordinaire, c'est une vie un peu comme celle de n'importe qui, sauf que, justement, n'importe qui n'est pas n'importe qui. Et on va en administrer la preuve jusqu'à 16h sur France Inter, La Passe Jésus.
Faut toujours emmerder les gens qui veulent avoir raison. Voilà une tactique infaillible, la position de repli suprême. Ça me permet de ne pas entretenir de vilaines rancunes, de rester propre du dedans. J'aime ou j'emmerde. La plupart de mes contemporains aiment ou détestent. Moi pas. J'aime ou j'emmerde. Pour hey, il faut mobiliser sa bile. Tandis qu'emmerder vous laisse paisible. Ça vous préserve des autres et de vous-même. Bref, c'est une forme de sagesse, car il faut dans le fond une belle sérénité d'âme pour emmerder les gens qui vous emmerdent.
Je vous aperçois presque plus, tellement vous crachez de la fumée de votre cigarette.
Depuis 57, c'est comme ça.
Depuis votre premier jour de boulot et votre doigt perdu.
Ouais. Donc j'ai fait une formation de taulier, et puis j'ai fait de la taulerie. Pour frimer, je suis devenu un peu un petit leader de mon quartier et des environs, un petit voleur de scooter, de moto, j'avais établi une petite réputation, les types ils me disaient, bon je veux tel enjeu, les scooters ils étaient couverts d'accessoires, des chromes, des machins, c'était la mode des chromes. Ben, je voudrais des enjolubeurs de roue, je voudrais un pot d'échappement à l'italienne, hop, bon, ben, tu repasses dans deux jours, ça te coûtera tant, et voilà. Pas par cupidité, plus pour la gloriole, l'affirmation du leader, quoi.
Donc vous vouliez être un petit caïd, quoi.
Voilà, ouais, un petit peu.
C'est comme si vous aviez un catalogue et vous disiez, bon, bah, vous, je veux telle pièce, je veux telle pièce, je veux telle pièce. Bon, bah, c'est bon, je te la livre. Je sais où est-ce que je peux la trouver, je te la livre sous 48 heures.
Voilà,
c'est la redoute du vol de scooter.
Oui, mais ça doit encore exister. Hein. Puis un jour, j'ai été balancé par un type. Et je me suis fait serrer par les flics. Donc, scandale dans la maison quand même. Et ma mère. Mais bon, pour mettre un terme à tout ça. Et puis quelque part, peut-être pour changer de paysage. Allez, j'ai signé un engagement express pour l'AFN, Afrique française du Nord, qui correspondait à l'Algérie.
Oui, ça correspondait à l'Algérie. Ça correspondait à l'Algérie, mais à l'époque, l'AFN, c'est pas seulement l'AFN. Il y avait des événements en AFN en Algérie. Il y avait une guerre, mais on ne disait pas une guerre, surtout pas, de libération, qui a fini, comme vous le savez, en 1962, par l'indépendance de l'Algérie. Mais pour en arriver là, on est passé par des moments épouvantables, terribles, torrides, sordides, et dont la France n'est pas sortie grandie. Et notre Bernard a été mêlé à cela.
Après, juste, on va dire que ça s'est bien passé au départ. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai dit, quand est-ce que je vais en Algérie ? Alors, Manu, mais attends, c'est terminé l'Algérie. Hein. Maintenant, c'est la période pacification. Le général de Gaulle ne veut plus qu'on envoie des engagés en Algérie, donc oublie. Alors, révolte, je dis comment oublie ? Mais j'ai signé 4 ans, parce qu'on m'a dit pour aller en Algérie, il faut au moins signer 4 ans. Et là, maintenant que j'ai signé 4 ans, on me dit que je vais laver des gamelles toute ma vie, là. Ou que je vais aller à Tahiti, mais je m'en fous de Tahiti, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'y avait rien à voir à Tahiti. C'était pas une vie, c'était pas une aventure, Tahiti. C'était des vacances, c'était pas... Alors que l'AFN, ça...
Et vous vouliez partir pour la guerre d'Algérie ?
Bah oui, tout à fait, oui.
Et vous vouliez d'autant plus partir pour l'Algérie plutôt que pour Tahiti, que vous disiez, bon, il n'y avait pas encore Rambo à l'époque, mais au moins en Algérie, voilà. Il y aura de la castagne, je vais avoir un fusil entre les mains, je vais pouvoir peut-être descendre des bonhommes ça, et prouver ma virilité ça. Autrement qu'en volant des pièces de scooter.
Exactement, le modèle petit loupard standard, hein, pas de culture politique, pas d'opinion sur le sujet. Ça m'a longtemps perturbé de ne pas être allé en Algérie. Ça m'a longtemps perturbé parce que je n'ai pas eu la possibilité de me tester mes possibilités réelles. Je suis un produit de la guerre. Hein. Entre la dernière guerre, l'Indochine et l'Algérie, on avait déjà plein de héros dans les bistrots qui racontaient leurs aventures.
Et vous, tout ce que vous aviez raconté, c'était finalement du vol de scooter.
C'était de la bricole, oui.
À la place de partir en Algérie avec la mitraillette, le barda et puis tout ça, vous faites 4 ans à récurer des chiottes et à laver des gamelles à Fréjus.
Non, j'ai décidé qu'on allait résilier mon contrat. Quand j'avais un sous-off qui voulait me donner des ordres, tu vas te faire cuire un œuf et puis tu me fous la paix, là. En disant, il n'est pas content, si tu veux, en boxing, c'est pas un problème. Alors, j'ai eu quelques jours de consignes, des saucisses, des solas, des trucs.
Et là, les tatouages que vous avez sur les bras,
ah ben ça, c'est...
ils datent de l'armée ?
Oui, parce que là, bon, j'ai eu droit, je sais pas, je vais dire de mémoire, 6 fois une mise en prison. Et là, c'était un bataillon africain. Alors là, il y avait des locaux disciplinaires. Pour l'époque, c'était quand on venait d'une famille à peu près normale. Je veux dire, l'homosexualité, le banditisme, des types qui avaient braqué leur capitaine pour lui voler la caisse. Il y avait vraiment de tout dans ces locaux disciplinaires. Donc, il y avait un clan de tolards où il fallait aussi faire sa place. Je ne l'ai pas faite par l'homosexualité, soit dit en passant. Je revendique beaucoup parce que je suis très, très, très hétéro. Dans les locaux disciplinaires, c'était du très répandu. Hein. Mais on portait pas de jugement sur le sujet, d'ailleurs. Hein. Moi, c'est non. Bois avec le voisin. Hein.
Il n'y avait pas de viol hein.
Non, très sincèrement, non. Un jour, j'avais repéré un petit jeune qui arrivait, là. Comment tu t'appelles ? Il me dit, ah, ça te regarde pas. Alors, j'ai prévenu un copain, je lui ai dit, tiens, ça m'a l'air d'être une gentille mignonne. Ils l'ont essayé dans la nuit, ils étaient dans la piole d'à côté, ils sont passés à 7 dessus, et tout le monde était content. Et lui aussi, après, il avait un petit carnet, il cochait les valeurs sexuelles des mecs.
Et donc les tatouages ?
Alors bon, bah là-bas, entre autres occupations, Par exemple, bah, tiens, tu me fais des tatouages. Alors bon, j'avais un bon coup de crayon, alors moi je dessinais par exemple un gorille sur la poitrine d'un copain, et puis il y en a un qui aimait bien tatouer, tac 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 tac, il piquait le type, et alors un tatouage ça pouvait prendre une journée. Hein.
Et donc là sur vos avant-bras, vous n'allez pas vous mettre à poil pour que non. Je vois tout.
Une encre de marine, une fleur, une rose, c'était très à la mode. Les trois points du julot sur le bras. De l'autre côté, il y avait le nom d'une fille et puis un petit cœur.
Et là, le cœur, il est resté, mais le prénom de la fille au-dessus, on le voit plus trop, il est un peu effacé.
Je l'ai brûlé. Cécile. Bon. Après, ils m'ont dit, bah, t'es viré, tu vas chez les appelés. Et je rentrais donc de cabane et j'avais une coupe à la Mohican. C'était le début du pas de def, alors mon treillis, il était retaillé façon pas de def. Quand je suis arrivé à la compagnie des appelés, le pitaine qui m'a reçu, c'était une barrique, hein, un gros tonneau. Et quand il m'a vu, il a poussé un cri, quoi. Il a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce... À l'époque, l'expression, c'était, dans la coloniale, c'était balouba. Donc, qu'est-ce que c'est que ce balouba? Donc, il a appelé l'état-major et on lui a dit, vous pouvez le renvoyer chez lui. Donc,
allô,
double surprise et agréable,
oui,
je rentrais chez moi. Ça va? Mais tu vas pas manger, tu patientes. Ta faim, ma chérie,
ouais.
Tu vas mourir. Et ben, tu te démerdes, tu fais cuire des nouilles, par exemple. Parce que je sais pas ce qu'il y a à bouffer. Il y a du pâté dans le frigo, il y a... Je sais pas ce qu'il y a, tu regardes. Ouais? D'accord, tu bouffes?
Oui.
Allez, tu te démerdes. T'es grande ou t'es pas grande?
Si.
Attention. T'es grande et bourrée. Bon, allez, hop. Viens. Allez, ma poule, va te faire à manger.
Quand vous sortez de l'armée, vous retournez chez papa-maman?
Oui, puis ma mère... Elle était bien contente que j'apporte... Parce que mon père était un petit fonctionnaire, mais qui buvait la moitié de sa paye avant de rentrer à la maison les jours de paye. Hein. Donc la pauvre vieille, elle se défonçait à faire des ménages à droite, à gauche, au black, pour apporter la pitance de ses gamins, quand même. Le soir de mes 21 ans, j'ai dit à ma mère, bon, je t'avais dit que je partirais à ma majorité, j'étais réglo. C'était, je crois, un samedi soir, je lui ai dit, j'ai 21 ans, je m'en vais. J'avais une mobilette. Et je suis parti. Et quelques jours après, je crois, je me suis marié avec une fille qui s'était accrochée à mes basques depuis, ça faisait peut-être une bonne année qu'elle était accrochée à mes basques, qu'elle était enceinte.
Vous m'avez montré la photo de papa-maman tout
non,
à l'heure.
Pas du tout, non.
Alors,
avec
la robe de mariée blanche, le costard, sans doute tous les invités, la mairie, l'église, vous avez fait
non.
Pareil.
Non, non, parce que j'avais mis quand même des conditions au mariage, hein, qu'elle oublie un petit peu sa famille. Des gens relativement fortunés, alors eux qui espéraient avoir un mariage avec... les gibus, les queues de pie et tutti quanti. Alors, c'était pas du tout mon style.
Mais moi, de son côté, il devait tirer la tronche quand ils ont vu le mec qui a une mobilette et qui revient viré de l'armée. Il n'est même pas foutu de prendre du grade à l'armée. Il revient viré de l'armée avec des tatouages sur les avant-bras.
Eux, je leur plaisais pas du tout aux beaux-parents. Hein. Mais très vite, ça s'est assez bien arrangé. On a eu accès à un super chouette HLM. Et c'était très chic.
Eau chaude, salle de bain tout confort. Les toilettes, elles n'étaient pas sur le palier. Donc à cette époque-là, le HLM, c'était...
C'était presque une promotion. Donc, j'ai passé 4 ans à remplir tout ça, quoi. À mettre des meubles, être gentil, retapisser, je dirais avec... assez luxueusement, tous les petits gars qui veulent réussir dans la vie, quoi.
Là, pendant 4 ans, vous faites le bon père de famille, quoi, finalement.
Je pense que j'étais un très bon père de famille. J'ai eu 2 garçons. Nous avons eu 2 garçons. Alors, les beaux-parents étaient rentrés par la fenêtre. Donc, je ne pouvais pas lui interdire de voir sa famille. Mais chaque fois, c'était des gens envahissants qui voulaient... régenter, me dire ce que je devais faire dans ma vie, me faire des leçons de morale, des ceci, cela. Je rentrais chez moi, j'avais une barre à l'estomac. Je peux dire que j'ai presque vécu 4 années où chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais une barre à l'estomac. Donc un beau jour...
Et pourquoi alors ?
Elle m'empoisonnait la vie. On avait des mots tous les jours. Et chaque week-end, quand on allait chez les beaux-parents, parce qu'on avait pris l'habitude chaque week-end d'aller chez les beaux-parents qui avaient une petite maison de campagne dans la banlieue de Lyon. Alors entre le beau-frère et les beaux-parents, c'était... vive l'ordre, l'armée, la police et compagnie. Moi, ça m'allait pas du tout, quoi. Tous les défauts des gaullistes de l'époque, quoi. Bien pensant, un peu de religion, le candidat-on, les livrets de caisse d'épargne, les comptes en banque. Il faut pas vivre, il faut toute la jeunesse, il faut pas de jeunesse parce que quand on sera vieux, il faudra avoir des sous de côté. Bon, le schéma classique, quoi. Que...
Alors là, vous serrez les bras le long du corps pour faire comme si on vous mettait. L'objectif, c'était finalement que votre belle famille et votre femme vous mettent en cage, quoi. Voilà. Quand vous rentriez dans l'appartement, dans le H&M, vous aviez le sentiment d'être un peu à l'étroit.
Ah oui, tout à fait, oui.
Balais, il a le Bernard. Moi, si vous êtes sociologue, historien, chercheur, dans quelle catégorie vous le placez, Bernard? Dans quelle catégorie sociale vous le placez, même si vous n'êtes pas un chercheur, ni historien? Ah, c'est des oiseaux qui échappent quand même pas mal aux catégories. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, de sentir comment l'époque, le temps, l'histoire, donc, influe une vie comme la sienne. Comment il est imprégné. Personne n'est évidemment indemne de ça, peut se prétendre indemne de ça. Comment la libération des mœurs dans les années 60 va infléchir sa vie sans qu'il forcément s'en rende compte. C'est une vie tout simplement qui ressemble à beaucoup de vies, mais qui bien sûr, comme chaque vie, est unique.
Je fais un petit calcul, là, vous avez 22, 23 ans.
Je suis parti à 25 ans, je me suis séparé à 25 ans. Hein.
25 ans, c'est fait... Vous êtes né en 43.
Ouais.
43 plus 25, ça fait 68.
Ouais.
Ça veut dire que finalement, le moment où vous vous sentez à l'étroit dans cette famille, vous dites gaulliste, caisse d'épargne, machin, c'est toute une jeunesse de France qui, en même temps que vous, se sent à l'étroit dans cette France-là.
Tout à fait, tout à fait. Alors moi, 68, ça s'est passé autrement. J'avais un emploi de sous-chef. Sous-chef, c'était une très grosse firme qui fabriquait des emballages vides, autrement dit des boîtes de conserve vides. Bon, donc la grève, bon.
C'est-à-dire en mai 68, la grève se déclenche dans votre entreprise. Vous êtes le cul entre deux chaises parce que, bon, d'un côté.
J'ai gueulé toute ma vie, toute ma jeunesse, j'étais un révolté. Et là, pour une fois, on m'avait donné une belle sucette. Qui s'appelle le statut d'assimilé cadre. J'avais une épouse, des beaux-parents qui me cassaient les burnes en permanence, qui voulaient que je sois un grand garçon, bien sérieux. J'étais tiraillé. Et puis, dans mon service, il y avait une petite secrétaire qui était mignonne comme tout. On palabrait sur le sujet, sur bon. Et puis, progressivement, c'est un peu éloigné du groupe. Et puis, finalement, au lieu de faire le siège de l'usine, en attendant que... la grève s'arrête, bon, nous, on allait se promener dans les bois et... Bon.
Bon.
Alors, voilà, c'est devenu ma maîtresse. Donc, je...
Donc, 68, finalement, vous avez fait le choix de ni être avec les cadres, ni être avec les ouvriers dans la grève, mais plutôt être avec la secrétaire. C'était la liberté du cul, plutôt, là.
Voilà, et oui, et rompre l'interdit. D'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous chez moi, là? Donc, j'ai dit à mon épouse, eh ben, écoute, dans 30 jours, voilà, c'est mon préavis, dans 30 jours, je fous le camp. Hein. J'en ai marre, toi, ta famille, je ne peux plus vous supporter, je ne peux plus vous voir en peinture. Et même aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai une haine. Mais on peut parler de classe, là, quelque part. Hein. Une haine de classe. Oui, on peut. Parce que... Bon.
Parce que...
Avec mes fils, je peux pas du tout m'entendre. Il y a un de mes fils récemment là, qui a eu une société de marketing, je ne sais pas trop quoi, qui essaye de me joindre, qui voulait venir me voir et compagnie. Et je m'aperçois que quand je l'ai au téléphone, ou le peu que j'ai passé 2 jours chez lui, je veux dire, je me retrouve avec la même barre à l'estomac que quand je voyais ses grands-parents ou sa mère, quoi. J'y peux rien, c'est comme ça. Et je l'ai constaté au téléphone, je lui ai dit, mais putain, mais ça y est, j'ai compris, parce que chaque fois que c'est lui qui me téléphonait, non, quoi, non, non, non. Alors, je ne lui ai pas dit non catégoriquement, mais j'ai suffisamment eu de diplomatie pour lui faire comprendre que, bon, c'était peut-être pas raisonnable et compagnie. Apparemment, il a abandonné, hein. Voilà. C'est pas mon style, moi. Je m'explique. Quand j'entends la mère, son épouse, qui, au téléphone, dit à ses enfants, « Tu dis, Pépé, je t'aime. » Alors, « Pépé, je t'aime. » Mais Pépé, je t'aime. Ils m'ont vu une fois, ils avaient 2 ans. Pépé, je t'aime, mais après, ils se foutent de ma gueule, là. Je veux dire, les parents se foutent de la gueule des gosses, et les gosses se foutent de ma gueule, quoi. Mais, Pépé, je t'aime. Un gosse, il m'a vu passer 2 jours dans sa vie. À peine. Pépé, je t'aime, mais... Mon fils, qui a été élevé par sa mère, j'ai aucun mérite sur le sujet, puisque moi, j'ai démissionné totalement, mais je veux dire, il a exactement les mêmes mœurs que tonton l'expert comptable ou Pépé Mémé, les négociants mère de maman et que maman, quoi. Je peux pas. Il y a un adage qui dit, tu coupes la queue à un chacal, c'est toujours un chacal. J'ai donné un préavis, et puis 30 jours après, je me suis barré. Et point à la ligne. J'estimais que je valais mieux que ça, quand même. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai estimé que je valais mieux que ça.
Elle s'appelait Marie-Anne et désirait m'entraîner vers les amours de son âge bien politisé. Moi qui me foutais de tout, j'acceptais à peu près tout. Ses discours et ses mirages, mes contrats baisés. Entre Mars et Maho, je m'envolais très haut. Entre Mars et Maho, dodo.
Dans mon service, il y avait une petite secrétaire qui était mignonne comme tout. Au lieu de faire le siège de l'usine en attendant que la grève s'arrête, bon, nous, on allait se promener dans les bois et... Bon.
Bon.
Donc, je...
Donc, 68, finalement, vous avez fait le choix de ni être avec les cadres, ni être avec les ouvriers dans la grève, mais plutôt être avec la secrétaire.
Rompre l'interdit.
Elle s'appelait Marie-Anne, mais pour l'embêter, je l'appelais nuit de Chine, fleur de rosée. Je l'aimais par-dessus tout, mais c'était démodé. Un étudiant gauchiste et jaloux, pas bien remplacé. Entre Mars et Maho, ils s'en veulent très haut. Entre Mars et Maho, au dodo. Entre Mars et Maho,
ils s'envolent très haut. Entre Mars et Maho, au dodo. 72, j'arrive à Grenoble. C'était le poste 68. C'était très proche des Baba Cool. D'abord, j'ai fait le Baba pendant peut-être un mois. Communautaire, mais urbain, quoi. Hein. Chez une fille qui avait... dont les grands-parents avaient un grand appartement, on était toute une zone, là, il y a des morceaux qui me heurtaient, parce qu'on rentre pas instantanément d'une vie à peu près normale, et d'ouvrier en particulier, on rentre pas dans une vie de babacool instantanément, enfin, je crois pas, hein. Moi, j'avais connu mon père alcoolo, je voulais pas être dépendant du pétard, quoi. Une ambiance de... on en a rien à foutre, quoi, y a rien de grave. Alors ça, j'ai tenu un mois comme ça, à peu près, hein. Et puis au bout d'un mois, ça m'allait plus. Je mettais des ronds dans la caisse pour acheter de la bouffe. J'avais 20 babacools qui bouffaient, puis mais il ne me restait plus qu'à faire la vaisselle. Quoi. Je disais, putain, là, les mecs, je crois, les petits gars... Bah, alors ça s'est terminé par un petit baston, d'ailleurs. Hein, alors j'ai demandé à la fille qui occupait les lieux, je lui écoute. Si tu veux, je vire tout le monde. Et on reste tous les deux, on sera bien. On peut essayer.
Finalement, c'est vous qui vouliez recréer la cellule bourgeoise.
Tout à fait, tout à fait. Et on se retrouve en couple. La fille était étudiante en médecine, une copine d'Alimi. Elle allait, petite rouquine, mignonnette, avec sa valise. Elle avait une correspondante en Angleterre. Elle prenait le train, le bateau. Elle passait en Angleterre. Elle allait chercher les canules de Carman. Elle ramenait ses canules de Carman. Elle étudiait à la fac.
Et elle pratiquait des avortements, alors?
Voilà. J'étais pas totalement gaucho, parce qu'il y avait quand même des choses qui me heurtaient. Pour un mec qui a bossé déjà avec pas mal d'années, quand on lui dit « Non, mais on se casse plus le cul, on a droit à tout, mais on fait quoi pour l'avoir ?»« Ah, mais c'est pas obligé, hein, celui qui veut pas travailler, il travaille pas, et compagnie. » Bon, je disais, mais attends, j'ai pas reçu la bonne formation, là, quand même. J'ai été baisé, là, dans la distribution. Bon, mais progressivement, je pense qu'il se mettait en place des morceaux de structure politique, hein. Dans le monde ouvrier, les brassages d'idées, c'était les boules, le baluche du samedi soir. Peut-être un jour, on aurait des vacances à la neige.
Un peu de PC, quand même, non?
Non. J'étais très craintif du stalinisme. Faire une grève parce que ça me fait chier ou parce que je suis pas assez payé, oui. Maintenant, faire une grève juste pour obéir à un syndicat, non. J'ai provoqué, ça m'est arrivé au moins une fois, une journée de grève, qui a obtenu des petits résultats immédiats. Nous, on voulait juste des rallonges. On a eu nos rallonges. Alors que le camarade de la CGT, lui, il voulait pas parce que les responsables de la fédération ne veulent pas parce qu'ils prévoient d'autres choses pour fallait garder les mouvements quotidiens pour un autre objectif à venir ultérieurement, etc., etc. Mais moi, j'en ai rien à tamponner. Je me dérompe tout de suite. C'est pas dans 6 mois, on verra. Je serai peut-être même pas là. Non. Il y a, entre autres, tel gars qui est Kabyle, qui est un des plus instruits du groupe ouvrier de l'atelier, et celui-ci, il gagne 40 centimes de l'heure de moins que nous, et celui-ci, tu veux pas que... Non, tu vas attendre que ça soit le secrétaire fédéral qui organise une grève pour autre chose, et on verra peut-être son sujet. Non, c'est tout de suite, là. C'est tout de suite, le sujet. Désolé, mon vieux. On peut pas te suivre dans les magouilles, quoi.
Vous trouvez plus de sympathie chez les gauchistes, ouais. Chez les anards, chez les libertaires, chez les maoches, dans toute cette mouvance jeune étudiante, même avec le choc des cultures, y compris le choc du coup de poing dans la tronche, s'il faut, pour virer tout le monde de l'appartement. Mais vous trouvez plus il y a plus de sympathie avec ça qu'avec le mouvement ouvrier organisé de la CGT et du Parti communiste.
Tout à fait, oui. Ouais, ouais.
Et donc, après, vous restez avec cette fille-là qui fait des avortements.
Non, mais un jour, elle m'a dit « Moi, je veux que tu me fasses un enfant ». Ah bon? J'ai dit, mais moi j'en ai déjà deux, ça va, hein, j'ai déjà donné, quoi. En 73, elle m'a dit, je suis enceinte. Chic, chic, chic. Ah bon? Je trouvais pas ça chic, chic, chic. Vraiment, était une nana très, très bien.
Comment ça s'est terminé, là?
Ça, c'est... Disons que j'ai vécu un peu, à ma façon, moralement, un peu comme Attila, quoi. Aujourd'hui, de façon triviale, les gens disent, quand on peut se faire du bien, ça fait pas de mal.
Mais je vais être encore plus trivial, ça veut dire que vous alliez tirer les coups à droite à gauche.
Voilà. J'en ai fait des misères à cette pauvre fille. J'étais parti en Amérique avec une gonzesse. J'étais un petit salaud, quoi. Hein. Voilà, ça y est, avec la crapule. Et puis un jour, je suis parti faire un chantier en Algérie. Donc il y en a une qui m'a cassé en disant Ouais, il a tiré avec celle-ci, il a tiré avec celle-là, il a tiré avec elle, il a tiré. Au bout de 5 semaines sans courrier, je lui dis c'est quand même bizarre qu'on ne m'écrive pas là, parce qu'en temps normal, quand je partais en déplacement occasionnellement, elle m'écrivait et tout. Je lui dis, je lui passe un coup de fil et je lui dis mais je voudrais savoir, là ça fait 5 semaines que je t'envoie des courriers, je n'ai pas de réponse. Elle m'a dit, ah non, mais il n'y a plus de place pour toi à la maison. Ah bon? Qui c'est le mec qui est mon place? C'est, comment ça s'appelait? Anne-Marie. Alors là, pour un prolo comme moi, la tarte dans la tronche, bonjour. La secousse, ça mortelle, mortelle, mortelle. Un choc violent, très violent. Le coq des villages, là, il a pris une tronche dans la tête. Hein.
Ça aurait été un mec que vous auriez mieux accepté?
Ah ben un mec encore, ça m'aurait paru normal, quoi. Pas d'anomalie, mais j'étais, parce que j'étais quand même très macho, hein, mine de rien. Hein. Ça se comprend, j'espère. Alors là, je... Non, là, ça a été une...
Quand vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure, la femme de ma vie.
Oui. C'était pas... a priori, c'était pas... une pin-up d'un mètre 75 ou un mètre 78, des marches de panthère rose... Non, mais elle me plaisait énormément. Notre plaisanterie a duré grosso modo 17 ans. J'ai jamais fait un coup, j'ai jamais mis un coup de canif à côté. Hein. C'est-à-dire en 17 ans, y compris quand j'étais en Allemagne ou à nouveau en Algérie ou n'importe quel chantier de France et de Navarre. Mais j'avais encore des défauts. J'en avais tellement sur moi à la naissance. Et puis voilà. Oh, mon tour, je dis. Oh, j'aimerais bien avoir un gamin de toi.
Ben, disons, la maturité, ça fait des choses.
J'ai reçu un coup de téléphone, elle avait accouché.
Sans vous ?
Ben oui, j'étais en chantier. Ensuite, 3 ans plus tard, je crois, on a eu un garçon.
Au total, vous en étiez à 6 ?
Moi, je suis arrivé à 6. Voilà.
Et donc, ces enfants-là, quand ils vous téléphonent, vous avez l'impression d'avoir des étrangers au bout du fil ?
Ah non. Alors, les 3 derniers, là, il en reste 2. Il y en a un qui s'est tué en bagnole en 2003. Il savait pas conduire, il a pris une bagnole, il s'est viandé. Et pas la peine de défiler pour dire plus jamais ça. C'est la vie, c'est comme ça. Et il m'était très attaché, je lui étais très attaché. Il m'avait suivi dans différentes pérégrinations. Parce que, donc, au bout d'une douzaine d'années, avec sa mère, ça s'est distendu et elle est partie vivre dans la Drôme. Donc, il y a eu beaucoup de... Bon, comme dans beaucoup de couples, je te vois pas, oui, on fait... Ah, oui, on pourrait y réfléchir. Non, on n'y réfléchit plus. Bon, elle a voulu, comme je dis, elle a dû vouloir gratter entre les cornes du diable pour voir ce que ça fait, quoi. Quand elle m'a quitté, j'étais artisan. J'emmenais mon soudeur et on allait faire des chantiers. On était dans le nord de la France. Quand vraiment ça a été confirmé... qu'elle me quittait totalement et qu'elle n'envisageait plus du tout de faire sa vie avec moi, ça a été vraiment l'horreur. Et quelque part, c'est là que je suis mort. Je suis mort. Complètement éteint. Et j'ai tout pardonné puisqu'elle est morte. Je l'avais dit de son vivant. Si un jour tu me quittes, je te pardonnerai que si tu meurs. Alors le gamin, il m'a beaucoup suivi, donc il a préféré vivre avec moi, quoi. À un moment, on vivait même en caravane. J'avais bricolé, doublé, tout, on aurait cru un petit appart. C'est une existence, on va dire, virile, hein. Parce que quand, même dans l'Hérault, à 430 mètres d'altitude, les matins d'hiver, quand on se réveille, il gèle comme ailleurs, hein. Mais c'était, bon, avec mon gamin, on a passé des bons moments. Et puis alors donc, elle est morte, 2 ans après mon fils est mort. Oui, ben ma vie... voilà. Comme disait Reggiani, alors comment ça le passé ?
C'est pas demain, demain la vieille, que tu reverras tes garçons qui sont partis de la maison. 6e étage, vue sur la cour, pour les sourires et pour l'amour, il fallait repasser la veille. Tant et tant d'années ont passé, nous avons oublié la vieille. La vie était une merveille. Et comme les autres entre 2 âges, j'ai perdu mon livre d'images. Alors, comment ça le passé? Je ne sais pas pourquoi ce soir je me demande dans quel jardin tu dors, la vieille. Au bout de ton voyage, dans quel jardin tu dors, sous quel paysage. Ma vieille, ma mère,
ma douce.
Madame, elle veut une boîte ?
Non, moi.
Elle t'avait amené une boîte ?
Ouais, j'ai mangé.
Eh ben, tu l'as mangé.
Allez, elle est là.
T'as mangé ?
Oui.
Eh ben, impeccable. Attention de pas trop grossir.
J'ai pas de mourir, pas.
Bon, ça va. Elle a de l'humour. Hein. Est-ce que je suis beau ?
Oui, il est beau.
Bon, tu peux rester.
Donc, après la fin des passions, comment vous avez organisé votre retraite de vieux sage ?
Et incinéré la femme la plus importante de ma vie il y a une dizaine d'années. J'ai vécu assez zombie pendant quelque temps. Et puis un jour, dans le village où j'étais, je vis porte ouverte. Hein, s'il fait beau, moi, les portes ne se ferment pas. Il y a une personne qui est apparue, qui est très zombique, hein. « Bonjour, café ?» Ben, je lui dis « Oui, pourquoi pas ?» Et après, café, cigarette. Alors, elle a roulé sa cigarette. Hein. Elle avait l'air émerveillée d'être là. Donc, je lui dis ben, « Quand je ne suis pas là, ou si je suis là, tu rentres, tu n'es jamais fermé. Hein. Du tabac, il y en a toujours. Tu te sers, tu prends du tabac. Ben, » Puis ça a duré, pourquoi pas, comme ça, peut-être 18 mois. Alors là, ce qui fait rire les copains, c'est qu'après... Pendant la fameuse canicule donc de 2003, la petite camarade s'est montrée très provocatrice. Alors, décolleté façon cachot la jaunie. Et puis, je suis pas de bois totalement quand même, même si je commence à être un vieux monsieur. On a eu des petits moments sexuels.
Donc, pendant 18 mois, cette jeune femme rentrait chez vous, se servait en tabac, se servait en café.
Oui, quand je m'absentais, je rentrais d'un séjour de 8 jours à l'extérieur. Je la trouvais assise à la table de ma cuisine. Elle a très peu de vocabulaire, hein, très très peu de mots, mais quelque part, là aussi, une forme d'humour qui n'est pas inintéressante. Un jour, sa mère et elle ont eu un grave différend.
Là, vous faites des signes comme quoi... Ils se sont frités, quoi. Il y a eu de la bagarre.
Bon. Voilà, il y a eu de la bagarre. Donc, une voisine m'a dit, la petite, elle crie au secours, elle t'appelle. Donc, je me suis rendu là-bas, je lui ai dit à la mère, bon, alors ça te plaît ou ça te plaît, c'est bon. Je couche avec ta fille, et puis, point à la ligne. Donc, maintenant, à partir de maintenant, je vais la prendre chez moi. Là. Comme ça, chez moi, elle sera traitée correctement. J'avais à l'époque un petit lit d'un mètre de large. Bon.
Vous êtes à la fois... son compagnon et son père, quoi, un peu.
Pour moi, oui. Elle, pour elle, non. Elle, pour elle, je suis son mec. Pas de problème. Elle a un mec attitré et je crois que pour elle, c'est un grand bonheur. Et ça fait quand même 7 ans que ça dure et je suis persuadé que ce sont des années de bonheur pour elle. C'est une histoire de tendresse, quand même. Hein. Parce que je m'as dit, bon, bah, après tout, j'ai pas été négatif pour tout le monde. Hein. Parce que là, avec tous mes mômes, j'en ai raté des épisodes. Hein.
En gros... Je répare avec Sonia le mal que j'ai peut-être fait à mes enfants, à mes femmes.
J'ai fait du mal, c'est incontestable. Quand j'ai dit à ma première épouse, dans 30 jours je me barre, c'était peut-être pas une méditative et elle est tombée sur les miches. Hein. Mais je me refuse pour le moment, je me refuse à me condamner.
Tabac,
mais tu comprends
que
je vais aller t'en chercher, ma belle.
Tiens,
voilà du tabac.
Hop, je te démerde. Et là. Bah, au revoir, Sonia.
Au revoir.
Bon courage avec lui.
Hein. Et mon mec.
C'est votre mec.
Ouais.
Bon, ouais, salut. Hein.
Merci à Sonia et à Bernard. C'était un reportage de François Ruffin, et n'oubliez pas le dernier numéro de Fakir qui est dans les kiosques, ainsi que demain Bakchich qui devient hebdomadaire. Le journal en ligne Bakchiche devient hebdomadaire papier à partir de demain. 20 pages en couleur d'informations, d'enquêtes et de mauvais esprits. On en reparlera. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de la base Sigisli au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.